dans cette petite galerie Guyane Argasconne que, bon, finalement, lors de ce qu'on appelle les vernissages, il y a un petit speech des personnes qui ont particulièrement bien connu l'auteur ou qui ont travaillé sur l'auteur, ce qui est mon cas. Donc, c'est une exposition qui regroupe les œuvres d'Odette Boyer, qui est une jeune femme née en 1905 et qui fait partie de toute cette génération d'artistes et qui se retrouve à l'école des Beaux-Arts dans les années 20, c'est-à-dire Maurice Pargade, Edmond Boissonnet, etc., tous ces artistes qui vont former un groupe très uni et qui, à la fin des années 20, en 1928, vont se retrouver autour de Jacques Belogre pour fonder les artistes indépendants bordelais que vous connaissez à connaître, puisque nombre d'entre eux ont été exposés dans cette galerie. Et donc Odette Boyer fait partie de ce groupe. Et certainement que c'est très agréable pour elle. Je l'imagine. Bon, les femmes, ceci dit, étaient très nombreuses à l'école des Beaux-Arts. Il y a une photo qui est dans ce catalogue un peu ancien, mais qui sera dans le nouveau catalogue qui paraîtra dans la seconde partie de l'exposition. Il y a une photo qui montre l'école, enfin le cours de Maurice Rogano, qui était alors le directeur de l'école, et où il y a une majorité de jeunes femmes. Et on voit Odette Boyer, très sérieuse, la palette sur les genoux, et donc elle faisait partie de ce groupe, et c'est vrai que ça lui a permis de ne pas être isolée dans Bordeaux. Faire partie d'un groupe, c'est toujours quelque chose de très stimulant. Et d'ailleurs, en 1928, elle fait partie de celle qui expose avec les artistes indépendants bordelais pour leur première exposition. Pour elle, c'était vraiment, je pense, un grand réconfort, d'autant qu'elle trouve certainement que l'enseignement à l'école des Beaux-Arts était un peu conventionnel, disons, et elle suivait les cours d'un autre artiste, des cours de dessin, et on sent déjà derrière cette envie de voir autre chose, une indépendance de son caractère. Et puis elle ne se séparera jamais de ses compagnons, notamment d'Edmond Boissonnet, avec qui souvent elle peint, et qui aura beaucoup d'ascendance sur elle. Beaucoup d'ascendants qui la feront hésiter à un moment donné entre continuer dans une figuration à caractère cubiste, disons, et ou à se lancer dans l'abstraction. Mais pour l'heure, elle peint sur le motif, elle aime cette proximité avec la nature, elle part en Espagne et elle rapporte d'Espagne, je crois qu'ils sont exposés dans la vitrine, des pochades, et qui sont vraiment les premières choses qu'elle peint, et c'est toujours très intéressant de voir les premières œuvres des artistes, parce qu'il y a de manière incroyable déjà beaucoup de choses qui vont se déployer dans l'avenir, beaucoup de choses qui, évidemment, rétrospectivement, sont révélatrices du sentiment que l'artiste a de la peinture. Et c'est vrai que ces pochades montrent une très grande liberté dans leur facture et des accords colorés aussi qui ne sont pas anodins, assez vifs. Et puis elle revient en France, elle continue à peindre sur le motif et petit à petit elle s'imprègne des théories de ses amis Boissonnet, Pargade, qui fréquente André Lhote, et de ce cubisme sensible que l'artiste bordelais et parisien dès lors professe. Et elle n'y est pas insensible. Et vous voyez que des toiles comme ces bateaux, par exemple, qui datent des années 50, sont imprégnées de cette volonté de structurer l'espace, d'aller au-delà de ce que Cézanne préconisait, et vraiment de travailler dans l'esprit des peintres cubistes, mais un cubisme donc où la couleur reste là et qui quand même permet de percevoir le sujet de la toile. Ce qui va être le plus important dans la vie d'Odette Boyer, à part son mariage évidemment avec son mari, Raymond Chantoiseau, en 1931, il faut dire une parenthèse, qu'elle ne voulait pas se marier. Il a fallu certainement que son mari insiste infiniment et ait un amour infini pour elle, pour la convaincre. Elle voulait se consacrer uniquement à la peinture. Elle voulait passer le concours de la Villa Médicis, partir à Rome, enfin faire une véritable carrière. Et puis, elle se laisse fléchir, elle se marie, et elle dit qu'elle ne l'a pas regretté, et elle a eu 4 enfants, donc voilà. Mais son mari lui avait dit, je m'occuperai de tout. La bienheureuse. Et il s'est occupé de tout, de faire bouillir la marmite, des enfants, etc. Et elle, elle a continué à peindre. Donc, en 1950, elle va visiter, grâce à son ami, le peintre Bache, elle va visiter Bissière dans son atelier de Boissy-Retz, dans le Lot. Et là, c'est une véritable révélation. C'est une femme de révélation, Colette Boyer. C'est vrai qu'elle est, c'est une femme qui est très croyante, hein, qui est vraiment à Dieu avec elle. Elle le dit dans son calepin. Et là, devant Bissière, elle est subjuguée non seulement par l'homme, et toutes les personnes qui ont approché Bissière ont été subjuguées par sa personnalité modeste, humble, mais très riche, et surtout son œuvre. Elle voit ses tableaux défiler devant elle, et pour elle, ce sont des tableaux extrêmement lumineux. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de sa rencontre avec Bissière, elle note sur un calepin les visites de Bissière, ce qu'a dit Bissière, ses impressions devant l'étoile de Bissière. Elle est véritablement subjuguée. Mais l'histoire n'est pas aussi simple que cela. Il y a Boissonnet, il y a Pargade qui lui parle aussi, et ils ne sont pas favorables finalement à l'abstraction totale. Et elle hésite, elle est dans le doute, elle voit que Boissonnet est heureux, hein, à Piquet, il a construit tout de lui-même, alors qu'elle, elle vit dans une vie bourgeoise, elle le dit elle-même, et elle se sent un peu étouffée, ça lui pèse cette vie qu'elle trouve certainement trop conventionnelle, alors que, bon, chez Boissonnet, tout est fait pour la peinture, tout, il y a une joie de peindre extraordinaire, une joie de vivre, qu'elle ressent de manière assez douloureuse. Et donc, elle a une période de grand doute, mais petit à petit, elle s'habitue à cette idée de la peinture de Bissière, de cette abstraction. Elle va à Paris, elle voit ce que présentent les élèves de Bissière, Manesquier, Lemoyle, Bazaine, dans les galeries. Elle, petit à petit, elle dit je suis, c'est parmi eux que je dois être. Elle sent véritablement qu'il faut qu'elle passe ce pas vers l'abstraction et qu'elle garde le sentiment de non seulement de cette humilité de la peinture qu'avait Bissière, mais aussi cette sensation qui lui est si chère de la nature. Il faut que ça reste quand même dans la peinture, même si cette peinture est abstraite. Et c'est vrai que Bissière ne se détache pas de la nature. Hein, il s'inspire de cette nature, ses couleurs sont celles de la nature. Et donc, petit à petit, elle progresse, et Bissière vient la voir, l'encourage. Et donc, il y a aussi Victoire-Elisabeth Calcani, qui fait partie de son groupe qu'elle fréquente, qui, elle, a déjà rencontré Bissière, qui, elle, déjà, depuis les années 50, est passée à l'abstraction. Donc, c'est pour elle aussi un élan, enfin, qui est important. Et donc, petit à petit, elle en vient à ses toiles qui sont présentées ici, où l'on devine pour certaines encore les toiles de la fin des années 50, les motifs du bassin d'Arcachon, car elle s'est beaucoup inspirée du bassin d'Arcachon quand elle a eu ce doute. Les filets des pêcheurs, les cageots d'huîtres, les bois flottés, etc. Finalement, elle les a beaucoup travaillés au dessin et progressivement, elle les a abstractisés, peut-on dire, et ça lui a permis de passer ce cap. Et dans certaines de ses toiles, il y a encore cette souvenance des bateaux sur le bassin. Et petit à petit, évidemment, elle s'éloigne de plus en plus de la représentation de la nature pour arriver à des rythmes et à des couleurs qui, certes, font penser à Bissière, mais qui sont aussi extrêmement personnelles. Elle garde le souvenir de la grille qu'employait Bissière pour mettre ses petites taches de couleurs, mais progressivement s'en sépare pour donner à la touche de peinture toute sa liberté. Malheureusement, dans sa vie, bon, son mari va mourir assez tôt, en 1965. Et là, elle a un moment de désespoir, certainement. Elle s'arrête de peindre. Et elle va se consacrer dorénavant non plus à la peinture, mais à la vie religieuse, tout en restant chez elle. Et elle, à la fabrication de vitraux, notamment, d'objets de culte et de sculptures pour les églises.
De portes de tabernacle.
De portes de tabernacle, etc., de chemin de croix. Et donc elle mourra en 1994, hein, c'est bien ça, et à l'âge de 87 ans, donc c'est un âge respectable, elle a vécu quand même une belle vie, bien remplie, et à la fin de sa vie, elle s'est remise
un petit peu
au crayon,
à la craie,
voilà. Elle a retrouvé la couleur à la fin de sa vie, ce qui est un signe aussi de cette aspiration spirituelle, hein, qu'elle avait en elle et qu'elle a gardée toute sa vie. Voilà.
Bravo.
C'est que l'exposition, comme souvent les expositions ici, se déroule en deux parties. Cette première partie avec essentiellement de la peinture, et une seconde partie où il y aura davantage de dessins, et la céramique de sa fille Maïté Fouquet-Chantoiseau, et qui est une céramiste formidable, qui a des œuvres au musée des arts décoratifs, c'est de dire, et vous verrez combien cette céramique contient cette même humilité, cette même spiritualité que les œuvres d'Odette Boyer. Il y a un accord entre les deux qui me paraît essentiel, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais dans ce qu'elle représente symboliquement.